Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Ma ba'du fa. Cette nuit, la nuit du 11 du mois de Rabi Anil Akhir de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 11e cours de notre série de cours sur la traduction et un léger commentaire du livre de Cheikh Al-Allama Abdurrahman Ibn Yusuf Al-Ifriqi, rahimahullah ta'ala, dont nous avons choisi comme titre Lumière sur la voie Tidjan, dont le titre original en arabe est Al-Anwar Ar-Rahmaniyya. Nous avons étudié dans les cours précédents ce qui est en relation avec l'introduction de Cheikh, rahimahullah. Et comme je l'ai évoqué à de maintes reprises, cette introduction est une introduction très importante car Cheikh a emprunté une méthodologie minutieuse et détaillée dans sa réfutation à cette secte qui est la voie Tidjan. En commençant par expliquer la cause de son écriture, de ce livre, à qui ce livre ou cette épître était destinée, puis expliqua le sens de la sunna, qu'est-ce qu'un véritable musulman, le sens de la sunna, le sens de l'innovation, ce qu'implique le suivi de la sunna, ce qu'implique le fait de tomber dans les innovations, quel est le devenir de l'innovateur, et autre que cela parmi ces points que j'ai détaillés précédemment dans les cours précédents lorsque j'ai lu donc la traduction de ce livre, qui est un livre très profitable, premièrement pour celui qui désire connaître un peu plus en détail cette voie, la voie Tidjan, c'est-à-dire connaître ses égarements bien sûr, puisque ici nous faisons l'étude de cette voie qui est une voie égarée, afin de nous en préserver, Nous ne cherchons pas à connaître le mal pour le suivre, mais plutôt pour nous en préservés, comme cela étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Hudayfa, Hudayfatu ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, qui disait, les gens, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demandaient à propos du bien, et je lui demandais à propos du mal, par peur qu'il ne m'atteigne, donc afin de connaître ce mal et de s'en préserver. Ceci est très important. Et ceci est la voie de ceux qui ont suivi au mieux la voie des prophètes et messagers. Car les prophètes et messagers venaient à leur peuple en les appelant au bien, à la guider, à l'unicité, l'adoration d'Allah Azzawajal seul et sans associé, mais pas seulement. Ils venaient à eux aussi avec la mise en garde contre eux, ce qui vient l'annuler ou ce qui vient le contredire at-tawhid, c'est-à-dire shirk, l'association. Donc ils venaient à eux avec la guidée, ce qui contredisait cette guidée, afin qu'ils s'en écartent et s'en préservent. Concernant le cours d'aujourd'hui, eh bien nous sommes arrivés à cette partie où Cheikh commence le détail des égarements qui sont reprochés à la secte des Tidjan. Bien sûr, une partie de ces égarements. Et vous verrez qu'ici aussi, Cheikh emprunta une méthodologie minutieuse, c'est-à-dire qu'il évoqua ces points d'une manière détaillée et minutieuse. Écoutez donc, il dit, dans le sens de ses paroles. Premièrement, le titre est « Le commencement du détail de ce que reprochent les partisans de la Sunna, aux Tidjan et autres parmi les sectes égarées. » Et ici, bien sûr, certains points sont généraux aux sectes et groupes innovés et innovants, et certains sont propres à la voie Tidjan. Ici donc, Cheikh nous dit dans le sens de ses paroles, « Je vous ai envoyé mes frères. » Ici, Cheikh nous indique dans cette parole le pourquoi, la cause de l'écriture, ou nous rappelle encore une fois la cause de l'écriture de cette épître. C'est-à-dire que certains de ses frères, comme il l'avait dit au début de l'épître, certains de ses frères lui ont demandé de détailler ce qui était reproché aux Tidjan, et lui-même avait remarqué que beaucoup de gens, en particulier qui venaient de son pays d'origine, qui est le Mali, et de ses alentours, étaient touchés par cette voie, étaient accrochés à cette voie. Il dit donc, je vous ai envoyé mes frères certaines choses que nous réprouvons dans cette voie Tidjane, accompagnées de l'explication de l'erreur de chaque parole, ainsi que l'indication du numéro de page dans les livres des Tidjane. C'est-à-dire que Shir, regardez, dans sa réfutation, encore une fois, il est très minutieux. Il dit donc qu'il évoqua ses erreurs, accompagné de la réfutation de ses erreurs, et, ou avant cela, accompagné de l'endroit où l'on peut trouver ces erreurs chez les Tidjane. Donc ce n'est pas une parole qui est dite comme cela, une parole en l'air, les Tidjane disent telle chose, et ceci nous amène à nous-mêmes, lorsque nous évoquons à certaines personnes afin de les mettre en garde, de les réfuter ou de les mettre en garde ou de les inviter à la sunna, il nous convient que lorsque nous leur évoquons ces erreurs qui sont reprochées à telle et telle voie, lorsque tu parles avec quelqu'un sur la voie de Jama'at Tablir, lorsque tu parles à quelqu'un de Al-Ikhwan, les frères musulmans, que tu les mets en garde contre ces voies par exemple, il te faut avoir certains arguments. Tu ne peux pas te contenter de dire à cette personne parce que ce sont des gens innovés. Mais quelle est leur innovation? Et tu rappelles certaines choses que tu as entendues simplement. Donc c'est du bouche à oreille, c'est-à-dire ici, comment on pourrait dire, tu ne fais que rapporter ce que tu as entendu. Ça, bien sûr, si tu as entendu cette chose-là de quelqu'un de sûr et que cette personne t'a évoqué les endroits où tu peux trouver ces égarements, il n'y a pas de problème. Tu as rapporté ceci avec une chaîne de transmission qui est viable. Ce que je veux dire ici, c'est que tu rapportes tout ce que tu entends. Ceci, même si tu l'entends dans une discussion où il n'y a pas forcément d'argumentaire autour de cette discussion, ou par exemple d'évocation des sources de cette chose. Comme on peut l'entendre souvent chez nos frères, lorsqu'ils parlent par exemple à propos de ce groupe, Jama'at Tablir, par exemple, ils disent, voilà, ce sont des gens qui disent telle et telle chose. Ils rapportent des histoires qui sont bien sûr des histoires saugrenues. L'histoire du gorille qui a rattrapé le passeport d'un tel parmi leur groupe, qui était parti dans une de leurs sorties, comme ils l'appellent, et qui a rattrapé le passeport je ne sais où, dans la jungle, etc. Ou le poisson le dauphin qui a rapporté le passeport, qui l'a sorti de l'eau parce qu'il était tombé dans l'eau. Des histoires saugrenues. Mais en soi, lorsque tu cherches à appeler quelqu'un à se détacher de cette voie, le fait de rappeler ces histoires saugrenues, ce n'est pas une chose qui, de base, va lui faire réprouver, comment dire, ce n'est pas la manière que tu as de le mettre en garde contre cette voie. Ce n'est pas la manière légiférée que tu as de le mettre en garde contre cette voie. Plutôt, il te convient de rapporter la base de leurs erreurs, c'est-à-dire un groupe, comme par exemple Jama'at Tablir, qui, elle, a été construite, a été fondée par une personne, Mohamed Ilyas, Al-Hindi Al-Kandahalawi, qui lui-même était un soufi noyé dans le soufisme, qui allait faire du dhikr auprès de la tombe de son shir, qui y restait pendant des heures et qui faisait du dhikr auprès de la tombe de son shir afin d'avoir des révélations, de rechercher à avoir des révélations comme le font les têtes des voix soufis, qui lui-même a fait allégeance à quatre voix soufis, qui lui-même a appelé à cela, et les gens qui les ont suivis qui ont appelé à cela, dans le centre de la ville de Delhi, le centre qui se trouve à Nizamuddin, eh bien, il y a quatre tombes à l'intérieur de ce centre, dont les têtes de cette voix, après Mohamed Ilyas, sont attestées de cela, le fait que effectivement il y a des tombes dans ce centre, dont certaines de ces têtes ont été enterrées elles-mêmes à l'intérieur du centre, donc par exemple cette personne qui faisait partie des têtes de la voie de Jama'at Tablir qui s'appelait In'am Hassan, qui lui-même a été enterré à l'intérieur de la tombe, et autre que cela, ça c'est la base sur laquelle tu vas construire ta réfutation, c'est-à-dire Al-Mukhalafat, c'est-à-dire les choses dans lesquelles cette voie ou ce groupe a contredit les bases de notre religion. Ici, on parle de shirk. On va parler de bid'ah, d'innovation. On a parlé donc d'association qui contredit la base de l'appel des prophètes et messagers, la base de notre religion, puis on va parler d'innovation qui contredit la base de l'appel de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et autre que cela. Et pourquoi est-ce que les gens de la sunna insistent sur ce point, le point de l'innovation, de mettre en garde contre les innovations? Bien sûr, après avoir insisté sur ce point, le fait de mettre en garde contre ash-shirk, qui est le plus grand des péchés par lequel Allah azza wa jalla a été désobéi. Pourquoi l'innovation? Car nous savons tous que les deux conditions d'acceptation des œuvres, les deux conditions qui doivent être réunies dans ton œuvre pour qu'elle soit acceptée, sont les suivantes. Et tout le monde le sait. Al-ikhlas ou al-mutaba'a, c'est-à-dire la sincérité, c'est-à-dire que cette œuvre ne soit vouée que pour Allah, seul et sans associé. Et al-mutaba'a, c'est-à-dire le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si l'une de ces deux conditions ne se retrouve pas dans ton œuvre, eh bien cette œuvre n'est pas acceptée. Ces deux conditions sont les conditions d'acceptation des œuvres. Il était donc du devoir des gens de la sunna et à leur tête, leurs savants, de combattre ces choses qui viennent contredire ces deux conditions d'acceptation des œuvres. Car si l'une des deux n'est pas réunie dans l'œuvre du musulman, eh bien son œuvre n'est pas acceptée, et quelles que soient ses œuvres, quel que soit le nombre de ses œuvres, et quelle que soit donc la quantité de ses œuvres, et la continuité de ses œuvres, c'est-à-dire l'assiduité dans laquelle il accomplit ses œuvres. Il peut accomplir des œuvres tout au long de sa vie, aucune de ses œuvres n'est acceptée, car elle a perdu une des deux conditions. Pour celui qui aura commis du shirk, de l'association, du polythéisme, ceci est clair. Pour celui qui aura commis de l'innovation, ceci est, bien que dans beaucoup de, ou dans certaines œuvres, en tout cas qu'œuvrent les soufis, il y a bien sûr des œuvres de shirk, mais ici on parle en particulier de l'innovation, et c'est pour cela que Cheikh Abdrahman Al-Ifriqi a fait toute cette introduction sur les innovations, sur le danger de l'innovation, sur le danger de l'innovateur, sur le fait que l'innovateur voit son innovation comme étant une religion. C'est pour cela qu'il ne la délaisse pas, qu'il œuvre dans cette innovation toute sa vie. Et si une personne a accompli ses œuvres dans l'innovation, ses œuvres ne lui sont pas acceptées, car il a œuvré une œuvre qui ne réunit pas les deux conditions d'acceptation des œuvres. C'est pour cela que les gens de la sunna, et à leur tête les savants, insistent lourdement sur ces points. Et ici, le point que je veux détailler ici, c'est le point de l'innovation et le fait de combattre les innovations, de les dénoncer, de les réfuter, de les combattre. Il dit donc, je vous ai envoyé, mes frères, certaines choses que nous réprouvons dans cette voie Tijan, accompagnées de l'explication de l'erreur de chaque parole. Regardez, la parole, l'explication de l'erreur et le numéro de page dans les livres des Tijan. Donc encore une fois, la minutie des gens de la sunna. Tu ne peux pas venir à une personne et lui dire telle et telle chose, telle et telle personne suit la voie par exemple des Tablir ou des Ikhwan, et ces gens-là ne sont pas des bonnes personnes. Pourquoi ce ne sont pas des bonnes personnes? Parce qu'ils racontent des histoires saugrenues. Non, tu commences par la base, et cette base-là, lorsque tu leur dis par exemple, eh bien, ce sont des gens qui font du shirk. Où est la preuve de ce shirk? Où est la preuve de cette chose-là? Ah, je ne sais pas, j'ai entendu les gens qui m'ont dit ça. Attendez, il y a un tel... Non, dans ce cas-là, tu n'avais pas à t'avancer et à parler. Il te convient à ce moment-là, quand tu veux parler dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de savoir de quoi tu parles. On ne te demande pas d'être... On ne demande pas à tout musulman d'être savant. On ne demande pas à tout musulman d'être étudiant en sciences, mais de maîtriser ce qu'il avance. De maîtriser ce qu'il avance. Comme... Il ne te conviendra pas d'enseigner à quelqu'un le wudu si toi-même tu ne sais pas faire le wudu. Eh bien, il ne te convient pas à quelqu'un d'enseigner telle ou telle facette de la religion si toi-même tu ne le maîtrises pas. Et ceci, bien sûr, est différent en fonction des personnes. Faites bien attention à cela. Et si on parle d'une personne, par exemple, qui n'aurait pas forcément confiance en toi, que tu ne connais pas et tu voudrais venir le conseiller alors que tu n'as pas ses bases, ces informations, cette science pour pouvoir le conseiller. À l'inverse d'une personne, par exemple, qui, elle, aurait confiance en toi de base, comme par exemple quelqu'un de ta famille, par exemple ton frère de sang, tu le vois tomber dans une de ces innovations et tu sais très bien que ceci est une innovation. Tu as entendu les gens de la Sunna mettre en garde, tu as même entendu les preuves, mais tu ne les as pas apprises, tu les as oubliées, tu n'es pas capable de lui évoquer ces preuves-là, d'argumenter le fait que cette chose est une bid'a et qu'il faut s'en écarter, mais tu es persuadé que ceci est une bid'a. Le fait que tu dises cela à ton frère, par exemple, de sang, que tu sais de lui qu'il ne va pas débattre avec toi, il va t'écouter car il a confiance en toi, ne t'approche pas de ce groupe les Tablir, ne t'approche pas des Tidjans, ne t'approche pas des frères musulmans, et il va te dire « Ah, j'ai compris, mon frère, c'est quelqu'un qui est sur la sunna, qui connaît ces choses-là, il m'a dit de ne pas m'approcher, je ne m'y approche pas. » Cette personne-là, on ne dira pas « Attends d'avoir appris les preuves pour pouvoir aller le mettre en garde. » Non. Donc il faut ici un juste milieu. Il faut un juste milieu. Barakallahu fikoum. Et donc, il dit, et ce, afin qu'apparaisse clairement à tout musulman, jaloux envers sa religion, c'est-à-dire jaloux, ayant de la jalousie pour sa religion, n'acceptant pas que sa religion soit pervertie, soit changée, jaloux envers sa religion, les incroyances de la voie Tidjan, de même que ses hérésies, donc ses innovations et ses égarements. Tout ce que je rapporte de leurs livres est soit une mécréance. Écoutez bien la parole ici de Cheikh Abdurrahman, ce grand savant, Abdurrahman Ibn Yusuf al-Ifriqi, rahimahullah. Il dit, ce que je rapportais, soit une mécréance, soit un mensonge sur Allah, subhanahu wa ta'ala, ou sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, faites bien attention, on l'a évoqué dans beaucoup de nos cours, je le rappelle encore une fois, car il est important d'insister là-dessus, pour que ceci soit connu pour ceux qui écoutent le cours, de même qu'une personne qui s'apparenterait à la voie tidjane et qui souhaiterait se détacher de cette voie, ou connaître au moins ses égarements, connaître ce qui leur sont reprochés, ne prennent pas ma parole en l'appliquant d'une manière qui n'a pas été évoquée ici. Ici, Ashir nous dit, ces choses qui leur sont reprochées sont soit une incroyance, c'est-à-dire soit une mécréance, soit une innovation, soit un mensonge sur Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur Allah subhanahu wa ta'ala, ou sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit, ici, les tidjans sont tous des mécréants. Celui qui s'apparente à la voie tidjane est un mécréant. Pas à un seul moment, et Shir nous dit ça dans le livre. Donc faites bien attention à cette chose-là. Les gens de la sunna font la différence entre eux, le fait de juger de non-croyants une personne précise et le fait de juger de mécréants de manière absolue. C'est-à-dire qu'ils font la différence entre le fait de dire telle chose est de la mécréance, et de dire telle personne, un tel fils d'un tel est un mécréant parce qu'il a pratiqué cette chose-là. Non, ces deux choses-là sont des choses différentes chez les gens de la sunna, et dans cela, ils se détachent, ils se démarquent de Al-Khawarij, Al-Takfiriyoun et autres qui rendent mécréants, qui jugent de mécréants la masse des musulmans pour un péché qu'ils auraient œuvré, ce même si ce péché est un grand péché, même si ce péché est de la mécréance, même si ce péché est du polythéisme, mais il reste que chez les gens de la sunna, avant de juger qu'une personne précise un tel fils d'un tel est mécréant, il faut que les conditions soient réunies et que les empêchements soient levés. Ici donc, Achir nous dit qu'Allah nous protège de l'abandon et de l'aveuglement. Qu'Allah nous protège de l'abandon et de l'aveuglement de la clairvoyance. C'est-à-dire d'être aveuglé et de ne pas voir la clairvoyance, de ne pas voir les choses qui sont exposées devant nous clairement. Amin. La première croyance. Nous commençons ici. La première croyance. Il dit dans Jawahir al-Ma'ani. Jawahir al-Ma'ani. Ici, Ash-Shir n'a pas détaillé qui est l'auteur de Jawahir al-Ma'ani, quel est ce livre, quelle est la place de ce livre chez les Tidjans, etc., etc. Ceci, je vais vous le détailler ici. Car ceci est important, puisque Ash-Shir, ici, s'adresse, même si son épître est générale, mais à la base, elle a été envoyée à des gens qui s'apparentent à la voie Tidjans, ou des gens qui ont connu cette voie, et une voie qui est répandue chez les gens qui habitent la contrée dans laquelle ils habitent. Chose qui n'est pas forcément notre cas, ou qui n'est pas le cas même de personnes qui s'apparentent à la voie tidjane. Donc, beaucoup de gens qui se disent tidjane ou qui sont partisans des tidjanes ne connaissent pas leurs croyances, ne savent pas la dangerosité de leurs croyances. Beaucoup de gens ne connaissent pas dans quel livre rechercher leurs égarements, puisque c'est la base. Lorsque nous parlons des égarements de quelqu'un, on revient à ses paroles, à lui-même, son livre, ce qu'il a écrit. Beaucoup de gens prennent cette croyance et cette voie de leur père, qui ont pris de leur père et autres, ou alors Dieu, l'imam de la ville, de l'imam du village, etc., etc., sans chercher à propos de cela. Et ceci alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une petite parenthèse, ceci alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé deux choses, comme il le dit lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai laissé deux choses, que si vous vous y cramponnez, vous ne vous égarerez jamais après moi. Le livre d'Allah et ma sunna. Allahu Akbar. Le livre d'Allah, nous le trouvons, alhamdoulilah, dans l'ensemble des mosquées des musulmans, en grand nombre. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été réunie, une partie de sa sunna a été réunie dans les livres de référence chez les musulmans, le sahih de l'imam al-Bukhari, le sahih de l'imam muslim, les livres de sunan, al-Nasa'i wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah, le musnad de l'imam Ahmed, le muwatta de l'imam Malik, al-Masanid comme musnad al-Darimi et autres. Et tous ces livres qui ont réuni les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a une excuse pour un musulman de ne pas connaître ces choses-là? Quand je dis de ne pas connaître, le fait de ne pas être savant de ces choses-là ne veut pas dire que nous n'en connaissons rien du tout. Combien de personnes peuvent nous dire « Je n'ai jamais ouvert le Sahih de l'imam al-Bukhari, par contre ils connaissent par cœur Jawahir al-Ma'ani » qui est un recueil des paroles de cette personne Sidi Ahmed Tijani. D'accord ? Donc, il y a un grand problème à ce niveau-là. Si une personne s'apparente à l'islam, mais ne connaît aucune des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aucun des recueils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a pratiquement jamais ouvert de sa vie le recueil de référence, le livre, d'après l'ensemble des musulmans qui sont d'accord sur le fait que le livre le plus authentique après le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le sahih de l'imam al-Bukhari et plus le sahih de l'imam muslim, ne l'ont pratiquement jamais ouvert, mais par contre connaissent ce livre, Jawahir al-Ma'ani, et le connaissent par cœur. Allahu Akbar. Il dit donc dans Jawahir al-Ma'ani, ce livre-là, dont la traduction en française est, bien sûr, la traduction en française est, car ce livre a été traduit effectivement en français. Donc faites bien attention à cela. Ce qu'on parle, quand on parle de la secte des Tijan, je l'ai évoqué dans des cours précédents, ils ont des sites internet, traduit dans plusieurs langues, dont le français. Ils ont Zawiya Tijani à Lyon, donc qui est l'endroit de référence des Tijan en France, etc., etc. Ce ne sont pas des gens qui sont dans un autre pays loin de nous et que peut-être on ne rencontrera jamais. Vous le savez très bien que que ce soit en France ou dans les autres pays ou dans d'autres pays francophones, eh bien, ils sont répandus. Donc, ce n'est pas quelque chose que à propos de quoi nous parlons. Et même si nous parlions d'une chose, comme je l'évoquais à deux maintes reprises, même si nous parlons d'une innovation qui a été rentrée par des innovateurs dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, même si ces gens-là, nous ne sommes jamais de notre vie amenés à les croiser, eh bien ce ne sera pas du superflu de parler de leurs égarements et de réfuter leurs égarements. Jamais ce ne sera du superflu pour quelqu'un qui est jaloux pour sa religion. Ici donc il dit, donc dans ce livre, pardon, Jawahir al-Ma'ani, qui est, dont le titre de la traduction française est « Perles des indications et compréhensions recueillies auprès du Cheikh Sidi Ahmed Tijani », d'accord, qui est écrit par Ali Harazim Ibn al-Arabi Barada, qui fait partie des grandes têtes de la voie Tijani. Ali Harazim Ibn al-Arabi Barada. Donc il a récolté, recueilli des perles, comme il le dit, des perles, des indications de cette personne, Ahmed Tijani. Il dit, donc il rapporte la parole de Ahmed Tijani ici, ce wird, donc le wird, on a déjà détaillé ce qu'était le wird dans les cours précédents, on va dire cette invocation, ou cette évocation d'Allah. Ce wird me fut réservé par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'enseigna pas à un seul de ses compagnons. Jusqu'à dire, de par sa connaissance, sallallahu alayhi wa sallam, du retardement de son temps et de l'absence de celui entre les mains duquel Allah le fera apparaître. Ce wird, il parle de ce wird. Pourquoi il ne l'a dit à personne avant Ahmed Tijani? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon lui, wa hashallahu sallallahu alayhi wa sallam, savait qu'il n'y avait pas une personne qui aurait pu le supporter ce wird, hormis lui, donc cette personne Ahmed Tijani. Il dit, Cheikh Abdelrahman al-Ifriqi, ainsi a-t-il été rapporté par l'auteur du livre, Al-Jaysh. C'est-à-dire que Cheikh ici a rapporté cette parole d'un autre livre qui est connu chez les Tijani, qui s'appelle Al-Jaysh. Il y a dans sa parole, Cheikh de nous dire, il y a dans sa parole, excusez-moi, cette parole-là, si je me rappelle bien, excusez-moi, ainsi a-t-il été rapporté par l'auteur du livre Al-Jaysh, ceci est la parole, pardon, de Ali Harazim. Ceci est la parole de Ali Harazim Barada, dans son livre Jawahir al-Ma'ani, qui lui-même donc l'a rapporté de ce livre-là. Puis il dit, Cheikh Abdelrahman al-Ifriqi, rahmallah, il dit, il y a dans sa parole, donc il reprend la parole de cette personne, donc Ahmed Tijani, qui est rapporté ici dans le livre de Ali Harazim. Ce wird me fut réservé par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'enseigna pas à un seul de ses compagnons. Il y a dans cela un rejet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha ar-rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Dans le sens de ces paroles, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Allah azza wa jalla ordonne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset, il lui dit au messager, transmets, c'est un ordre, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Il dit, Shir, donc il y a une contradiction de cela. C'est-à-dire ici, vous insinuez, vous les Tijan, toi, donc le cheikh de la voie Tijan, Ahmed Tijani, tu insinues que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas obéi à Allah tabaraka wa ta'ala dans cet ordre, lorsqu'il lui dit, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Tu ne l'as pas transmis, tu as attendu une personne qui est venue mille et quelques centaines d'années après ta mort pour lui transmettre par l'intermédiaire d'un rêve que lui-même seul a vu, etc., etc., etc. Ceci est quelque chose de très étonnant. Il dit donc après Cheikh Yusuf Abdelrahman ibn Yusuf al-Ifriqi, il dit, et il est connu que le fait de dissimuler la révélation n'est pas possible de la part du prophète, de la part des prophètes et des messagers, alayhim salatu wassalam, puisqu'il s'agit d'une trahison du dépôt. Et les prophètes et messagers ne trahissent pas le dépôt. Allah Azza wa Jal les a rendus infaillibles en ce qui concerne le dépôt. Ils ne peuvent pas le traduire, ceci est impossible de leur part. Puis Ashir dit Ibn Ashir, le Maliki, a dit dans la partie traitant du Tawhid de son poème, donc qui est connu comme, qui s'appelle Al-Murshid al-Mu'in, qui est connu comme Nazm ibn Ashir, qui est un livre de référence chez les suiveurs de... du madhab de l'imam Malik. Et regardez encore une fois Ashir, comme il l'a fait à de maintes reprises précédemment, il sait qu'il s'adresse à des gens qui pour la plupart s'apparentent au madhab de l'imam Malik, donc il ne rapporte pas, il aurait pu rapporter Ashir des paroles de beaucoup d'autres personnes et des personnes qui ont une croyance bien plus saine que Ibn Ashir, comme je vais l'expliquer, qui lui-même n'était pas sur une bonne croyance, mais il rapporta sa parole car c'est une parole de vérité. Et que ce poème, donc ce poème, le poème d'Ibn Ashir, est un poème qui est connu par l'ensemble des gens qui s'apparentent à ce madhab. C'est un poème qui est étudié dans les écoles pour dès le plus jeune âge. Ils le connaissent, ils l'apprennent par cœur, et ceci est un poème qui est notoire, qui a une grande notoriété. Donc Ashir a rapporté cette parole-là pour les mettre devant le fait accompli. Vous-même qui vous apparentez à ce madhab, vous-même qui avez appris ce poème depuis que vous êtes petit, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit donc dans le sens de ses paroles, les nobles messagers sont forcément véridiques. Leur honnêteté dans la transmission du message est vérité. Il est impossible qu'ils mentent ou commettent l'interdit, comme le fait de ne pas transmettre le message. Dans la traduction approximative de ces vers de poésie. Cette personne, Ibn Ashir, juste pour détailler ce que j'ai dit, s'appelle Abdul Wahid Ibn Ahmad Ibn Ali Ibn Ashir Al-Ansari, qui était un jurisconsulte de l'école malikite. Il est mort en 1040 de l'Hégire. Il est mort en 1040 de l'Hégire, donc il y a 404 ans. 404 ans. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont son poème Al-Murshid Al-Mu'in, à propos duquel l'auteur donc a fait référence ici. Et cette personne, Ibn Ashir, était Ash'ari de Aqida, donc une Aqida qui contredit l'Aqida des gens de la Sunna. Il était Ash'ari. Il était malikite dans le fiqh, selon ce qu'il rapporte, et il était soufi, c'était lui-même un soufi. Mais ce n'était pas un Tijan. Il avait emprunté donc une voie soufie. Bien sûr, ce n'est pas un Tidjane, puisque la voie Tidjane est apparue après. Il était sur une autre voie, mais il était sur une voie qui n'est pas tombée dans cet égarement dans lequel est tombée la voie Tidjane, de prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été véridique dans la transmission de ce message. Bien sûr, les Tidjanes ne le disent pas clairement, ne disent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été véridique. Ils disent il a été véridique puisqu'il l'a transmis mille et quelques centaines d'années après sa mort à une personne, à notre Shir Ahmed Tidjane. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le fait de rapporter cette parole ou de dire cette parole et de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hacha lahu sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas transmis le message? Quelle est la différence en réalité? C'est-à-dire, ce que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ces siècles de savants et d'imams musulmans n'ont pas su, toi, Ahmed Tidjane, tu l'as su et toi et tes adeptes. Allahu Akbar. Il dit ensuite, Cheikh Abdurrahman al-Ifriq, il dit, il n'y a guère de doute qu'attribuer la dissimulation au prophète sallallahu alayhi wa sallam est une mécréance. À l'unanimité des savants. Donc quelqu'un qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dissimulé, ceci est une mécréance. Comme je l'ai dit, les Tidjanes ne disent pas cela clairement, mais ce qu'ils disent veut dire en réalité cette chose-là. Et ce qu'implique ce qu'ils disent, leurs paroles, implique cette chose-là, le fait, donc implique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura dissimulé. Il dit donc ceci est une mécréance à l'unanimité des savants. Sa parole est de l'absence, et sa parole donc, ici, d'Ahmed Tidjane, lorsqu'il dit, est de l'absence de celui entre les mains duquel Allah le fera apparaître. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne l'a pas, n'a pas rappelé ce wird avant cela, et ne me l'a rappelé qu'à moi, car il savait, selon sa prétention à Hachallahu sallallahu alayhi wa sallam, selon sa prétention à Ahmed Tidjane, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il n'y avait personne qui, entre les mains duquel Allah Azzawajal le fera apparaître, c'est-à-dire entre les mains duquel cette évocation apparaîtra aux gens d'une bonne manière, si ce n'est entre ses mains à lui. Et le shir de nous dire, il y a dans cela le fait que la personne préfère sa propre personne sur Abu Bakr, As-Siddiq, radiallahu anhu. Car ce dernier ne pouvait pas porter le word. C'est ce qu'il veut dire ici. Il préfère sa propre personne sur Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in, puisqu'il dit que seul lui pouvait porter et faire apparaître ce word en dehors de tous ceux-là qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des hommes après les prophètes et messagers. Il dit ensuite, car ce dernier ne pouvait pas porter le wird, d'après lui. Cette parole est totalement fausse, voire extrêmement injurieuse. Je vais m'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, puisque j'ai dépassé un petit peu le temps imparti au cours, et j'irai un petit peu plus rapidement dans les prochains cours, sur exposition des prochaines croyances, puisqu'il a exposé, Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, 10 croyances ou 10 points dans lesquels les Tidjanes ont contredit les gens de la Sunna. Ici, nous avons lu ensemble le premier point, et c'est un point très important, très important comme vous pouvez le voir. Et le deuxième point concerne Salatul Fatih, donc cette évocation, ce word qui est connu chez les Tidjanes et que l'ensemble des gens connaissent, que ce word fait partie de l'awrad des Tidjanes. Nous en parlerons dans le cours prochain et le détaillerons, Inch'Allah ta'ala, wa ilahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak, ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.